Merci Seigneur, parce que tu nous invites en ta présence. Merci Seigneur de ta présence ici, maintenant, par ton Saint-Esprit. Que tout ce que je dis, Seigneur, vienne de vous, de toi. Seigneur, que tu remplisses notre cœur, notre esprit de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et chères sœurs, après 50 jours d'attente depuis notre célébration des événements de Pâques et 10 jours après l'ascension de Jésus, ressuscité auprès de son Père, nous voilà au dimanche de Pentecôte, la fin de la période de Pâques. Selon le calendrier traditionnel de l'Église, avec la venue spectaculaire et dramatique du Saint-Esprit de Dieu, tant promis par Jésus-Christ à ses disciples et à tous ceux qui croient en lui. En effet, un moment de l'histoire chrétienne qui inaugure, encore une fois, selon la tradition de l'Église, l'Église universelle du Christ. Une Église de toutes les langues et de toutes les races dont nous-mêmes nous sommes membres. 50 jours depuis la fête juive de la Pâque, la plus grande fête du judaïsme que les contemporains de Jésus venaient célébrer à Jérusalem, pour commémorer la sortie du peuple de Dieu d'Égypte. Et ça se lit dans Deutéronome 16, 1 à 8. Pour commémorer la libération de l'esclavage littéral dans ce pays d'Égypte. 50 jours depuis Pâques, avec un S cette fois-ci, où les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection de Jésus-Christ et leur libération de l'esclavage du péché, plus grave et plus destructeur que l'esclavage du corps, n'est-ce pas? Pour les Juifs, la fête de la Pentecôte était aussi, elle aussi, très importante. À l'origine, pour les Juifs, la fête de la Pâque, c'était une fête de la moisson. Mais elle devint plus tard une commémoration du don de la loi et de l'alliance du Sinaï. Le nom de Pentecôte, adopté aussi par l'Église du Christ, signifie en effet cinquantième. Et vient de ce que cette fête est célébrée le 50e jour après celle de la Pâque juive. À la Pentecôte, les Juifs, alors, célèbrent le don de la parole de Dieu, et les chrétiens, eux, nous, les chrétiens célèbrent le don de l'Esprit de Dieu, qui rend cette parole de Dieu vivante. Ce matin, nous allons examiner ensemble trois extraits du chapitre 2 des Actes des Apôtres, où il s'agit du récit d'abord de la venue du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, du discours ou prédication de Pierre, où il nous donne l'interprétation de ces événements bouleversants, et finalement la manière dont l'arrivée du Saint-Esprit a complètement transformé la vie de cette nouvelle communauté de croyants, pour qui le témoignage par le comportement, les actions et les œuvres est vite devenu aussi important et peut-être plus important que leur témoignage oral dont Nous avons parlé il y a plus de 6 semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez. D'abord, la venue du Saint-Esprit. On va lire des actes, acte 2 et versets 1 à 8 et 12 à 13. Je lis dans la Bible en français courant, parce que c'est simple. Et je peux comprendre. Non, mais ce n'est pas ça. Mais c'est une excellente version de la Bible, mais en français ordinaire, quoi, de tous les jours. C'est très bien. Bon, acte 2, 1 à 8 et 12 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ?» Et puis le verset 12, ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. » Imaginons cette scène. Les croyants étaient réunis tous dans un même endroit, dans une maison, donc à l'abri des regards indiscrets ou hostiles. Sans doute étaient-ils là pour prier et s'encourager, car Jésus leur avait commandé, avant de les quitter, et on lit ça aux actes 1, 4 à 5, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Il est à noter que Jean nous dit, en Jean 20, 21, que Jésus s'était déjà montré avant sa résurrection à ses disciples en soufflant sur eux et en leur disant « Recevez le Saint-Esprit » dans un contexte beaucoup plus paisible, moins de bruit, moins de son, beaucoup plus paisible qu'ici, dans cette scène. Peut-être comme il a fait pour nous à notre conversion. Mais ici, dans le premier chapitre des Actes, Jésus parle clairement d'un baptême. Ses disciples seraient submergés, inondés par l'Esprit Saint. Et c'est bien ce qui est arrivé. Selon Matthieu et Luc, Jean-Baptiste, lui aussi, avait affirmé que Jésus baptiserait avec le Saint-Esprit et avec du feu. Cette prophétie de Jean-Baptiste s'est donc réalisée ici. car les croyants virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu qui se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. C'était donc un baptême à la fois collectif et personnel. Cette expérience visuelle qui soulignait la puissance et la pureté du don qu'ils allaient recevoir fut accompagnée du grand bruit d'un vent violent qui signifiait encore la puissance et l'omniprésence du Saint-Esprit. Comment ne pas avoir peur devant ces manifestations dramatiques? Mais non, dans le verset 11 de ce chapitre, on apprend qu'avec les langues inconnues que seuls les spectateurs de divers pays pouvaient déchiffrer, ils adoraient Dieu en parlant de ses grandes œuvres. Ça, c'est au verset 11. J'ai appris au cours des années où j'ai suivi Jésus cette vérité incontournable. La présence authentique du Saint-Esprit bannit toute peur. La présence authentique, la vraie présence du Saint-Esprit bannit toute peur. Ce qui fait peur dans certains milieux traditionnels ou conservateurs, qu'ils soient protestants, catholiques ou orthodoxes, ce sont les débordements, les excès d'émotions fortes qu'on rencontre parfois dans certains milieux charismatiques. Donc, on comprend très bien leurs doutes et leurs inquiétudes. Moi, j'ai passé 23 ans dans une assemblée de Dieu. Et je comprends les doutes et les hésitations de certaines personnes. De temps en temps, on avait peut-être des manifestations qui n'étaient pas toujours de Dieu. Mais tout en cherchant le discernement nécessaire dans ces contextes, et il faut un discernement de la part du conseil, de la part des individus, il ne faut jamais oublier que la peur est incompatible avec la liberté et la foi en Christ. Et comme Paul nous le dit en Corinthiens 3, 17, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Quelquefois, il ne s'agit pas de peur ou de crainte, mais de l'ignorance du croyant. Pendant qu'il traversait la région montagneuse d'Asie mineure, Paul arriva à Éphèse et y trouva des croyants. Et il leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. » Acte 19, 2. Parce qu'ils savaient bien qu'ils désiraient sincèrement connaître toute vérité, Paul posa la main sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ça se lit en Acte 19, 6. Le problème alors n'est pas forcément l'ignorance, mais l'absence, quelquefois, d'une volonté d'apprendre plus. On me pose quelquefois la question, et toi, toi-même, es-tu charismatique? Pour quelqu'un comme moi, qui a été élevé dans un milieu anglican, plutôt catholique, baptisé dans une église baptiste française, servi comme conseiller, diacre ou ancien dans une église baptiste, libriste et pentecôtiste pendant plus de 30 ans, j'avoue que la question me gêne un peu. Je ne peux pas y répondre sans donner quelques petites précisions que je considère comme très importantes. D'abord, il faut préciser que le mot « charismatique » vient du mot « charisme » ou en grec « charisma », qui veut dire « grâce » en français, c'est-à-dire un don gratuit. Il désigne l'ensemble des dons spirituels octroyés par Dieu à des individus ou à des groupes. Un excellent résumé des dons les plus importants se trouve en Romains 12, 6 à 8. Mais ce matin, je n'ai pas le temps d'élaborer trop. Vous allez dire, nous avons, je lis maintenant, de Romains 12, 6 à 8. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, c'est-à-dire la prophétie, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Le don de parler en langue, comme les disciples de notre passage, est sans doute un excellent don. Je peux en être témoin, c'est un excellent don. Mais il ne se trouve pas sur la liste ci-dessus. Par contre, la prophétie, le don de transmettre des messages reçus de Dieu, est la première sur la liste. Et Paul encourage tous ceux qui désirent ardemment les dons de l'Esprit à chercher, écoutons bien, à être riches, surtout de ceux qui font progresser l'Église. L'important, c'est que c'est le seul et même Esprit qui produit tout cela et qu'il accorde à chacun un don différent comme il veut. 1 Corinthiens 12. Alors, ma réponse à la question « Es-tu charismatique ?» est simple et sans équivoque. Bien sûr que oui. Je veux recevoir du Saint-Esprit tous les dons qu'il veut me donner, qui m'aident à suivre Jésus et à servir son Église. Et ma prière, c'est que tous mes frères et toutes mes sœurs, ainsi que notre communauté d'Église entière ici, aient le même désir. Et si cela surprend, étonne ou même provoque, je suis certain, de la moquerie ou attire des critiques, comme dans notre passage. Peu importe, le Saint-Esprit aura toujours le dernier mot. Je passe maintenant au discours de Pierre. Alors, ceux qui étaient témoins de ces événements étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient « Qu'est-ce que cela signifie ?» Verset 12. Et Pierre leur donne une explication. Je vais lire d'abord la première partie de son explication. Acte 2 et versets 14 à 21. Pierre se leva alors avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. Vous, juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est seulement 9h du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Je susciterai des phénomènes extraordinaires en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. C'est en 2 Corinthiens 4, 7 à 10 qu'on parle des vases d'argile. Si nous voulons que la vie de Jésus soit rendue manifeste dans ces vases d'argile, accueillons avec des bras ouverts l'Esprit Saint. Car nous avons vraiment besoin de lui pour remplir la mission que le Sauveur du monde nous a confiée. Passons maintenant au troisième extrait d'acte 2. Les versets 42 à 47. Acte 2, versets 42 à 47. Ces versets nous montrent comment ces premiers croyants commencèrent à vivre après avoir reçu ce baptême de l'Esprit Saint promis par Jésus. Alors, acte 2, 42 à 47. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Oui. Tout de suite, après ce récit concernant le don de l'Esprit Saint à l'Église du Christ et l'appel de Pierre à la repentance et au salut, l'importance du fruit de l'Esprit est mise en évidence quand Luc nous parle de la qualité de la vie de la communauté chrétienne dès le début de l'établissement de l'Église. Car ils louaient Dieu non seulement par leurs paroles et leurs chants, mais essentiellement par leurs actions d'amour et de grâce. Et c'est cela qui explique que le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Rodney Stark, encore un sociologue chrétien américain très distingué, souligne le fait que sous l'Empire romain, beaucoup de personnes se sont converties au christianisme, non parce qu'ils le trouvaient philosophiquement intègre ou plus persuasif que les autres religions ou philosophies, mais parce que le christianisme était tout simplement efficace. Ses actions correspondaient à ses doctrines. Et il donne l'exemple de la fameuse peste, le fléau, de Galen. Ça s'est passé entre 165 et 180 ans après le Christ, où des milliers de victimes sont morts dans les rues, abandonnés par leurs familles et concitoyens. Mais les chrétiens de cette communauté, les chrétiens qui y habitaient en communauté, ne cessaient de soigner les malades en dépit des dangers personnels qui couraient, car ils ne craignaient pas la mort et voulaient répondre à l'enseignement que Jésus donne en Matthieu 25, 34 à 36. On lit souvent ce petit extrait, mais écoutons bien. Matthieu 25, 34 à 36, où Jésus dit: « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Je suis frappé par le fait que dans les lettres de Paul, l'amour est décrit non seulement comme un fruit de l'esprit, l'amour est décrit comme un chemin supérieur à tout. 1 Corinthiens 12, 31. Un don de l'esprit. Cherchez donc avant tout à recevoir le don de l'amour, 1 Corinthiens 14, 1, et un fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Tout le monde connaît ce verset. Le verset de Romains 5, 5 est très, très intéressant. Cette espérance des chrétiens ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Quel verset superbe! Je reviens alors à ce que j'ai dit dans mon introduction. La venue du Saint-Esprit a complètement transformé la vie de cette nouvelle communauté de croyants, pour que le témoignage par le comportement, les actions de grâce et les œuvres d'amour est vite devenu aussi important que le témoignage oral, l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Alors je conclus. Tout comme il n'y a pas de chrétiens de première ou de deuxième classe, les charismatiques et les non-charismatiques, je ne sais pas quelles sont les divisions, mais tout comme il n'y a pas de chrétien de première ou de deuxième classe, il ne devrait pas y avoir des divisions entre les charismatiques et les non-charismatiques. Car c'est Jésus qui a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Jailliront de son cœur, Jean 7, 38. N'ayons pas peur alors de nous baigner dans les eaux vives de l'Esprit, car c'est Jésus lui-même qui nous baptise avec le Saint-Esprit et le feu pour pouvoir vivre pleinement pour lui. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la vraie liberté. Amen.